ici, la Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide dans la capitale américaine, ravi de vous retrouver dans Washington Forum, consacré cette semaine au combat qui continue contre la pandémie du sida.
Environ 35 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, la majorité en Afrique subsaharienne. La communauté internationale est d'avis que la priorité accordée en ce moment à la lutte contre l'épidémie d'Ebola ne doit aucunement freiner les efforts pour tenter de vaincre le sida d'ici à 2030. Décryptage.
Washington Forum.
Bienvenue et mille merci de votre fidélité à la VOA. Nous sommes le jeudi 4 décembre 2014. Dans quelques petites minutes, nos invités feront état des espoirs et déceptions en ce mois dédié au combat contre le sida. Plus de 30 ans après son identification, le VIH ne lâche pas pied, même si les antirétroviraux offrent désormais aux malades la même espérance de vie qu'une personne non infectée. Mais au prix d'effets secondaires, parfois importants, un survol de la situation avec Camille Grosdidier.
En 1984, il n'existait aucun médicament contre le VIH-Sida. 30 ans plus tard, on en recense plus de 30. Des progrès qualifiés d'extraordinaires par le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, le NIH.
Si vous pouvez placer quelqu'un sous antirétroviraux relativement tôt après leur infection, comme dans le cas d'un homme ou d'une femme de 25 ans, alors pouvez les regarder dans les yeux, comme je le fais quand je les vois dans ma clinique 3 fois par semaine, et leur dire que s'ils continuent leur traitement, ils peuvent vivre encore 50 ans, ce qui est l'un des exploits les plus extraordinaires de la recherche biomédicale.
Néanmoins, les dernières études ont permis de constater qu'aux États-Unis, 30% seulement des séropositifs et sidéens sont sous traitement. Chez les 18 à 24 ans, c'est encore pire. Certains Américains redoutent de se faire tester. D'autres sont fatigués d'avaler une pilule après l'autre, refusent d'utiliser des préservatifs ou craignent de révéler leur séropositivité à cause de la stigmatisation.
Au Kenya aujourd'hui, il existe des femmes séropositives, mais qui ne le diront pas.
Chaque année, l'université Howard ici à Washington parraine une conférence sur la stigmatisation des séropositifs et sidéens. Roy McCoy travaille pour une ONG qui offre des services aux malades.
L'une des choses qui me préoccupe en tant qu'éducateur de santé, c'est de m'assurer que les personnes continuent de prendre leurs médicaments. Je m'inquiète aussi de la mentalité des gens qui ne sont pas infectés et qui disent « Oh, les gens prennent des médicaments, donc si je suis infecté, tout ira bien. »
C'est pourquoi, expliquait récemment le docteur Fauci, lors d'une allocution au Centre pour les études stratégiques et internationales, il reste urgent de mettre au point un vaccin contre le VIH-Sida. Impossible d'oublier qu'en dépit des progrès, plus de 35 millions de personnes à travers le monde vivent avec le VIH-Sida. Selon l'ONU-Sida, 1,5 million de personnes sont encore mortes de ces séquelles en 2012.
Merci bien Camille. Et voilà, tour d'horizon maintenant des enseignements et avancer avec nos invités sur une maladie que le monde veut éradiquer dans 15 ans. Alors, via Skype de Bujumbura, la Burundaise Jeanne Gapilla, présidente de l'ANSS, Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida, première femme à avoir dévoilé sa séropositivité au Burundi. En Belgique, docteur Marie-Paul Philips, responsable analyse et plaidoyer sur le VIH pour Médecins sans frontières. Et avec moi sur ce plateau, mon collègue Khalil Gueye, présentateur de l'émission de radio « Votre santé, votre avenir » sur la VOA. Quelques repères chiffrés avant d'entrer dans le vif du sujet. Le sida fait plus de 39 millions de morts à ce jour. L'Afrique subsaharienne, où 24,7 millions de personnes vivaient avec le VIH en 2013, est la région la plus touchée, Elle concentre également près de 70% des nouvelles infections dans le monde. L'infection à VIH est en général diagnostiquée au moyen de tests sanguins détectant la présence ou l'absence d'anticorps. Il n'existe pas de moyen de guérir de cette infection. En revanche, les antirétroviraux, ARV, peuvent juguler le virus. En 2013, plus de 12,9 millions de personnes vivant avec le VIH étaient sous thérapie antirétrovirale, TAR ou TAR, au niveau mondial, dont 11,7 millions dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. L'OMS constate encore des retards dans la couverture pédiatrique dans des pays africains, notamment. En 2014, moins d'un enfant sur quatre vivant avec le VIH avait accès à une TAR contre plus d'un adulte sur trois. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le VIH, lundi, l'ONU-SIDA a rappelé qu'il était possible de mettre fin à la pandémie dans les 5 prochaines années. Jeanne Agapilla, je commence par vous, vous qui êtes sur le terrain. Ce scénario est-il réalisable?
Absolument. Je pense que c'est réalisable, d'autant plus qu'on connaît qu'aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, si on met sous traitement les personnes infectées et que ces personnes sont bien suivies, elles n'infectent plus. Et je me dis que si on mettait les moyens pour d'abord dépister, parce que c'est la porte d'entrée, et qu'on était capable de soigner tout le monde et à temps, parce que aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, il est préconisé de traiter précocement. Et on est capable d'arrêter le VIH-SIDA, d'arrêter le virus, si les personnes infectées ne contaminent pas. Vous comprenez bien qu'on peut arrêter ce virus. Alors, je me permets de dire que c'est vraiment regrettable de faire la guerre des maladies. Ebola, c'est une maladie qui mérite toute une attention, comme le SIDA mérite toute l'attention. Aujourd'hui, si on se dit, maintenant, on va s'attaquer à l'Ebola, et on va arrêter le VIH-SIDA, je pense que c'est une erreur monumentale, parce qu'on va se réveiller, ça sera trop tard. Et ce serait dommage, au moment où nous savons où on peut aller, où nous savons comment arrêter ce virus, et qu'on trouve des prétextes pour ne pas mettre les moyens pour pouvoir arrêter cette pandémie.
Jeanne, vous me tendez la perche à la guerre des maladies. Docteur Phillips, l'épidémie d'Ebola est-elle en train de freiner la lutte anti-SIDA?
J'espère que non, hein, parce que je pense que l'Ebola nous remet un peu comme au début de l'épidémie du SIDA, où on n'avait pas de traitement. Et donc ça nous démontre encore une fois que le système de recherche et développement pour avoir des médicaments qui marchent aussi pour des gens qui sont très affectés, mais qui ne sont pas nécessairement un marché intéressant pour les firmes pharmaceutiques, par exemple, il faut mettre de l'attention là aussi pour ces maladies. Je pense que l'Ebola, pour le moment, mobilise beaucoup les esprits et j'espère en tout cas que ce ne sera pas au dépit du SIDA. Parce que moi, je suis convaincue, comme ma collègue, en disant que c'est seulement dans la continuité qu'on pourra gagner cette bataille contre le SIDA. Et c'est tout très bien de dire, voilà, on va arrêter le SIDA d'ici 2030. Ce n'est qu'à condition qu'on puisse mettre les efforts et mettre les moyens pour réaliser ce qui est possible en théorie.
Nous allons y revenir d'ailleurs tout à l'heure, docteur. Alors, Ralil, c'est un sujet que vous couvrez depuis pas mal d'années. Il y a des progrès, certes, nous l'avons entendu, mais des échecs également. L'Ouganda, par exemple, qui a régressé ces dernières années après 20 ans de succès. Pourquoi ce modèle africain a-t-il failli?
Bon, merci Jacques. D'abord, il faut noter que le succès de l'Ouganda était dû à une continuité et de la conviction dans la lutte. Mais l'échec est arrivé à cause de deux ou trois choses majeures, que sont d'abord la cherté des médicaments, des traitements médicamenteux. Ensuite, il y a eu des détournements de 45 millions de dollars, de fonds mondial par exemple, et aussi des détournements de fonds de l'Alliance pour les vaccins. Donc ces comportements dus à une mauvaise gouvernance ont mené à une crise du système de santé qui faisait vraiment des performances.
Mm-hmm. Y a-t-il également un certain relâchement? Peut-être après tant d'efforts, après 20 ans d'efforts, on se dit, maintenant ça va, tout va bien, la situation est bonne.
Je ne pense pas, parce que les patients ne peuvent pas attendre. Mm-hmm. Les patients sont là et la maladie nécessite une lutte quotidienne et régulière.
Mm-hmm. Et qu'en est-il de la RDC? Parce que vous mettez beaucoup l'accent sur la RDC dans vos émissions.
Oui, par contre la RDC... enregistre succès sur succès dans la lutte. Ils ont un programme qui s'appelle le programme national de lutte contre le sida, le programme multisectoriel de lutte contre le sida, qui est un programme qui est coiffé d'ailleurs, dirigé par le président, mais qui est aussi un programme qui regroupe des experts congolais qui n'hésitent pas à avancer vers de nouvelles aventures dans la recherche du traitement.
Et d'ailleurs, vous avez un reportage à nous proposer à Lille.
Oui, et d'ailleurs, nous allons y aller parce que nous allons regarder... le témoignage de Jean Lukela, qui est citoyen congolais, séropositif, mais qui est un activiste dans la lutte contre le sida. Voici son petit portrait. Dans ce quartier populaire de la capitale congolaise, Kinshasa, Jean Lukela marche vers le siège de son association de personnes vivant avec le virus, le réseau national des associations à assises communautaires, RENOAC. L'homme force le respect car, séropositif, il a décidé de sortir de l'ombre et de se battre pour l'amélioration de la situation de toutes les personnes vivant avec le VIH en RDC. Retour sur la cohabitation de cet homme avec le virus du sida. L'annonce de sa séropositivité a failli faire basculer sa vie.
Et directement, j'ai songé à la mort. Je savais que la mort était certaine. Et quand on vous annonçait le résultat, 3 mois après, à toi tu disparaissais.
L'onde de choc. La famille aussi a été secouée.
Le problème était d'abord de convaincre mes enfants, parce que c'était à ce moment-là, ma première épouse était déjà morte. J'étais resté célibataire avec 8 filles. Vous voyez ce que ça fait? Je devrais, il faut les faire étudier, tout ça, ainsi de suite. Et quand je pensais à ça, j'ai tombé malade et pourtant je n'étais plus malade. Jusqu'à présent, je me demande de quoi est-ce que je souffrais.
Mais Jean Lukela a vite compris que rester dans la clandestinité en tant que personne vivant avec le virus du sida rendait son état encore plus difficile à gérer, car cela développait d'abord l'autostigmatisation, la voie ouverte vers la stigmatisation par les autres, par la société. Sa décision fut prise.
Et je suis sorti de la clandestinité avec un groupe de 10 PVV jusqu'à, nous sommes allés, 10, 50, 100... 200, et puis à ce moment-là, c'est parce que nous avons créé ce qu'on appelait les groupes de support.
Voilà un témoignage d'un Congolais vivant avec le VIH. Nous le disions, la crise Ebola demeure l'autre urgence sur le continent africain. Pour soutenir la campagne de prévention, une dizaine d'artistes américains et africains de la région de Washington DC se sont regroupés pour interpréter en plusieurs langues Ebola, We Can Overcome. Parmi les voix, celle de notre ami Ralil, ici avec nous.
You feel me, self go feel em. We are not from below. Where you cry, me self go cry.
It's go we commit, we go down one day. We go play and laugh again. We picking and go learn, all things go fine.
Mama, papa, brother, and sister. Let we join we hand for fed the sick and the bam go.
Hamnani mwenen ko Daniel, motak ni wombolo mi, indi len ligan.
Voilà la voix très particulière de Ralil. La lutte continue avec le sourire également. Il faut apporter un peu de positivité à tout ça. Voilà, Jacques Aristide avec vous. Merci d'être toujours avec nous. Zoom sur la lutte contre le VIH-SIDA dans ce Washington Forum. Nos invités, Jeanne Gapilla de l'Association burundaise de soutien aux séropositifs et malades du SIDA. De Bruxelles, docteur Marie-Paul Philips de l'ONG Médecins sans frontières. et Ralil Gueye qui présentent Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Mais d'emblée, deux commentaires Facebook. Dziban Nzonguma de Pretoria, Afrique du Sud. Merci à tous ceux qui luttent contre ce fléau. Et Maxime Kanyimba de Kolwezi, RDC. Ebola a pris la place du sida en termes de priorité, mais le sida reste incurable. Oui, on l'a dit. Pour l'heure, aucun vaccin donc, ni thérapie ne permet encore la guérison totale. Mais selon une étude de l'université d'Oxford au Royaume-Uni, le VIH semble depuis 2 ans devenir moins dangereux. Les chercheurs sont d'avis que le virus devrait continuer à évoluer, d'autant plus rapidement en Afrique subsaharienne, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ils estiment que cette accélération de son adaptation est une bonne nouvelle. Mais, docteur Phillips, les moyens techniques, médicaux et financiers sont-ils vraiment mis en œuvre, notamment par les grands laboratoires, pour dire que l'espoir est à portée de main, pour dire que le monde va vers la guérison du sida?
Oui, ben c'est difficile à dire. Pour le moment, nous ne voyons pas à l'horizon proche un vaccin ni un traitement vraiment qui peut éradiquer le virus. Mais néanmoins, on a des avancées technologiques ces dernières années, notamment dans les antirétroviraux et aussi dans la détection du virus, qui ont permis vraiment d'amener le traitement, le diagnostic, le suivi clinique aussi, tout près des patients, et même dans des conditions assez basiques. Donc ça, avec cela, nous avons pu faire vraiment des grands pas en avant. Je pense que c'est grâce à ça aussi que la couverture du traitement a pu se augmenter. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement un grand bénéfice pour le patient même, pour éviter la mort bien sûr et toutes les infections opportunistes, mais aussi que le virus va être supprimé dans le corps. Donc c'est aussi une prévention de la transmission vers son partenaire sexuel ou vers son enfant qu'on allait ou qui non né encore. Donc je pense qu'il y a encore des choses qui pourraient faciliter vraiment l'application, et sinon sur le moyen à long terme, on espère qu'on trouve un médicament qui va vraiment pouvoir éradiquer le virus du corps. Mais ce n'est pas encore le cas.
Un autre aspect à aborder en Afrique, la vulnérabilité des femmes est telle que le sujet est désormais traité comme l'une des priorités dans les conférences mondiales dédiées au sida. L'ONU SIDA soutient que dans certains pays africains, les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans ont 8 fois plus de risques que les jeunes hommes d'être séropositives. Jeanne Gapia, la pandémie se féminise-t-elle sur le continent africain? Et si oui, pourquoi?
Alors, vous me permettrez d'abord de dire une chose. C'est vrai qu'on a fait des progrès, mais dans nos pays, nous restons, et c'est ce que je disais le 1er décembre, et que je suis frustrée de voir que nous assistons encore une fois aux personnes qui doivent mourir parce que nous n'avons pas les traitements de troisième ligne. Mmh. Et ça, lorsqu'on parle de l'accès universel, on comprend très bien qu'il y a encore un décalage entre les pays du Nord et les pays du Sud. Mon pays, le Burundi, la RDC, je sais que là, un collègue faisait un appel SOS parce qu'il y avait un patient qui doit aller sous traitement troisième ligne et où on a essayé de faire tout ce qu'on peut faire. Et moi, dans mon association, maintenant, j'ai des gens, si d'ici 2-3 mois, on n'a pas ces traitements et j'ai peur qu'on ne les aura pas, je ne sais pas si je les aurai encore. Alors, pour aborder votre sujet, c'est vrai qu'au Burundi, d'abord, 60% des personnes infectées sont des femmes. Et donc, le VIH, c'est en train de se féminiser pour la simple raison que les femmes dans nos pays, vous savez, pour le moment, quand on regarde la transmission, c'est vraiment prioritairement la transmission sexuelle. Et les femmes n'ont pas le droit de négocier le sexe pour la simple raison qu'elles sont vulnérables au niveau économique et qu'il y a des cultures, il y a les religions. Tout ça, ça joue pour que la femme n'ait pas vraiment un pouvoir pour dire non lorsqu'elle se dit « je suis faible » ou alors ou lorsque elle sait que peut-être son mari l'a trompée, elle ne peut pas exiger un préservatif. Nous avons des problèmes d'avoir des préservatifs féminins. Même quand il y en a, les préservatifs féminins sont très peu acceptés. Et tout ça sont des contraintes qui font que les femmes sont encore une fois plus exposées que les hommes. Et je peux dire que vraiment le grand problème envers les femmes, c'est beaucoup plus la vulnérabilité économique. Mmh. Aujourd'hui, une femme te dit, bon, de toutes les façons, si je refuse ce que mon mari m'a demandé, elle me met à la porte. Mmh. Et si elle me met à la porte, je sais pas, c'est une autre mort, en fait.
Mmh. Et Raline, donc voilà. Jeanne, le temps passe très vite. Oui, Jeanne, malheureusement, le temps passe très vite. Alors, Raline, nous ne pouvons pas parler du sida sans parler de la tuberculose. Alors, pourquoi le VIH et la tuberculose forment-ils une association meurtrière, particulièrement en Afrique?
Oui, c'est ce qu'on appelle la co-infection. En réalité, c'est deux choses qui s'influencent, qui profitent l'une de l'autre assez facilement. Donc, ce qu'il y a, c'est que la tuberculose aggrave le sida, parce que la charge virale de la personne qui est atteinte du virus est diminuée, affaiblie, pour permettre à la tuberculose d'accéder.
Et d'ailleurs, Ali, à plein feu sur cet aspect dans ce reportage.
Ces enfants passent leur après-midi à faire ce qu'ils aiment, jouer à des jeux sans souci. Mais au lieu d'être avec ses amis, Imelda Messia, âgée de 12 ans, séjourne à l'hôpital voisin de Brooklyn, au Cap, où elle suit un traitement pour la tuberculose depuis 5 mois. C'était dur de vivre loin de sa famille.
Il me manque tellement. J'ai tellement envie de les revoir. Et je sais qu'ils ont aussi très envie de me revoir.
Ces bébés doivent être séparés de leur mère pour recevoir le traitement nécessaire à l'hôpital. D'après le professeur Robert Guy, expert de la tuberculose chez les enfants à l'université de Stellenbosch, près du Cap, les femmes enceintes ainsi que les bébés et les tout-petits sont particulièrement vulnérables à la tuberculose et ont été négligés dans la recherche. Les bébés sont souvent sujets à la tuberculose sévère, comme la méningite tuberculeuse.
Les jeunes enfants âgés de moins d'un an ont 5 à 10 fois plus de chances de développer la tuberculose sévère que les enfants plus âgés. Ils sont donc beaucoup plus vulnérables.
Les bébés doivent souvent subir des tests durs et traumatisants pendant le diagnostic de la tuberculose. Le traitement de la tuberculose n'a pas changé depuis des décennies. Les médicaments sont durs, amers et difficiles à avaler. Et ils peuvent donner à l'enfant des nausées et, dans des cas extrêmes, causer la surdité chez l'enfant. Pour Gérard Morquel, pédiatre à l'hôpital, les mères ont besoin d'un encouragement constant pour qu'elles puissent continuer la médication de leur bébé.
C'est difficile pour les bébés d'avaler 5, 6, 7 comprimés.
Les comprimés doivent être écrasés pour que les enfants puissent les avaler. Mais malgré la médication amère, sans traitement, la tuberculose très souvent tue. Les enfants en bonne santé comme Elam Mkoka sont la preuve que les médicaments et soins peuvent faire toute la différence. La mère de Elam, Sheila, est ravie de voir son enfant rentrer de l'hôpital complètement remis de la tuberculose.
Je me sens libre et je suis heureuse parce que j'ai amené mon enfant à temps. Et aujourd'hui, il est là, assis à mes côtés et en excellente santé.
C'est le but pour encore plus d'enfants à travers le monde. Moins de maladies et zéro décès par la tuberculose chez les enfants.
Voilà, il nous reste quelques petites minutes. Jeanne, il y a 8 ans au Kenya, l'actuel président américain Barack Obama, alors sénateur, et sa femme Michelle avaient fait le test de dépistage du VIH dans le cadre d'une campagne contre la stigmatisation. Ce problème de stigmatisation est-il encore d'actualité en Afrique? Très rapidement, Jeanne.
Absolument. Ce problème existe encore et surtout envers les enfants. L'exemple concret que je pourrais vous dire, j'ai été obligée d'ouvrir une sorte d'orphelinat parce que nous avons des enfants qui sont infectés et dont les familles proches ne veulent plus d'eux. Et donc, ça, c'est dommage qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui, au moment où on croyait qu'il y a une solidarité africaine, lorsqu'il y a le VIH, cette solidarité, on ne la voit plus.
Alors, docteur Phillips, si vous m'entendez, pour revenir au thème de la journée mondiale du sida, objectif zéro, c'est-à-dire zéro nouvelle infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès lié au sida. Docteur, vous pensez que ces objectifs ont une chance d'être atteints?
Oui, c'est comme je le disais. En théorie, on a les outils pour le faire. La difficulté est l'application. Et donc, moi, nous sommes un peu... on n'aime pas trop bien de parler que de la fin du sida, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on voit sur le terrain. Sur le terrain, la situation peut être très différente d'un pays à l'autre. Par exemple, au Malawi, ça a l'air d'aller bien, la couverture est bonne. En RDC, au Nigeria, Afrique de l'Ouest et centrale, la couverture du traitement est moins de 20%. Donc, beaucoup de gens attendent toujours leur traitement.
Merci bien. Merci, docteur.
Et les systèmes de santé doivent s'adapter aussi être plus efficaces.
On va y revenir certainement. C'est un sujet que nous allons traiter plusieurs fois dans Washington Forum. Alors, merci à nos invités. Jeanne Gapilla de l'Association burundaise de soutien aux séropositifs et malades du sida. Docteur Marie-Paul Phillips de Médecins Sans Frontières et Ralil Gay de la VOA. Petit clin d'œil à mes amis et confrères de MNTV, notre télépartenaire au Congo-Brazzaville. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Je vous quitte avec une chanson que nous a suggérée notre collègue Roger Muntou. Le titre « Donnons un chaos au sida » interprété par de jeunes artistes ivoiriens sous la férule du rappeur congolais Tijak Munia. Chanson réalisée grâce au plan d'urgence américain pour la lutte contre le VIH-Sida PEPFAR. Voilà, c'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care. Et on dit quoi, Ralil? Donnons un chaos au sida.
Fais des dépistages pour connaître ton statut.